Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Si vous découvrez ce podcast aujourd'hui, sachez que j'y interviewe des avocats de tout âge, spécialité ou lieu d'exercice qui ont pour point commun de s'épanouir dans la profession et tous les 5 épisodes, une interview d'avocat reconverti car je pense que l'on est vraiment épanoui que lorsque l'on sait qu'on a le choix. L'épisode d'aujourd'hui est l'avant-dernier de la grille d'été du podcast dans laquelle je suis partie à la rencontre d'avocats qui ont une double vie et j'échange avec eux moins sur la profession que sur cette deuxième vie justement. Aujourd'hui, je partage avec vous mon échange avec maître Mathieu Simonet, avocat associé du cabinet Beaumarchais dans lequel il intervient en droit des affaires, propriété intellectuelle et droit de la publicité. C'est pour sa casquette d'écrivain que je l'ai rencontré. Il a publié plusieurs romans, dont Barbe Rose, dont nous parlons largement dans l'interview. Il anime également des ateliers d'écriture et a pris la tête début juillet de la Société des gens de lettres. C'est maître Caroline Arène, la chanteuse de jazz de l'épisode 4 de cette série d'été et une grande fan du travail de Mathieu, qui m'a recommandé de l'interviewer. Et j'en suis ravie car j'ai découvert un écrivain que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, puis à interviewer. Mathieu s'est confié à mon micro avec authenticité. J'espère que comme moi, vous serez inspiré par cet homme qui ne triche pas avec son histoire, ses désirs et ses besoins. Toujours pour celles et ceux qui découvrent Fleurs d'avocat aujourd'hui, sachez que c'est également une formation à l'intention des jeunes avocats qui s'appelle Bien dans ma robe. Cette formation est composée de 4 ateliers de 2h30 et nous étudions différents outils pour vous aider à bien vivre votre exercice professionnel. Adopter une attitude proactive, analyser son environnement professionnel, gérer son stress et enfin, gérer les conflits. Si vous trouvez votre exercice difficile et que vous souhaitez explorer des pistes d'amélioration dès la rentrée, je vous invite à jeter un œil au site internet de Fleurs d'Avocat, www.fleursdavocat.fr, et pourquoi pas à vous inscrire. La prochaine session aura lieu les mercredis 4, 11, 18 et 25 septembre dans les locaux du cabinet Bold, 19 rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement. Il reste quelques places. Lors de votre inscription, pensez à utiliser le code promo podcast, PODCAST, pour bénéficier d'une petite réduction. Enfin, si vous aimez le podcast, je vous invite à prendre quelques minutes pour laisser un avis et une nuée d'étoiles sur iTunes ou votre application podcast préférée, pour que d'autres puissent le découvrir à leur tour. C'est vraiment utile pour améliorer la visibilité du podcast sur les plateformes. Il est temps maintenant de vous souhaiter une très bonne écoute. Bonjour Mathieu Simonet.
Bonjour.
Merci d'être mon invité sur Fleurs d'avocat.
Merci, je suis ravie.
Alors, j'aimerais commencer Mathieu par lire deux passages de votre dernier roman qui s'appelle Barbe Rose, qui est un roman dans lequel vous écrivez sur votre relation avec votre père, votre relation à votre père.
Pour être tout à fait précis, ce n'est pas mon dernier livre.
Ah, c'est pas votre dernier livre?
Mais j'aime beaucoup ce livre. En fait, le tout dernier s'appelle Anne Saraka.
D'accord.
Mais je n'ai pas actualisé mon site internet.
Ah, voilà.
Et donc, vous n'êtes pas la première. Justement, il faut que j'actualise mon site internet.
Donc, mais, votre avant-dernier livre.
Mon avant-dernier livre, voilà.
Bon, je n'ai pas le plaisir d'avoir lu le dernier. J'aurais beaucoup aimé lire Les Carnets Blancs, mais manifestement, il n'est plus édité.
Ah bon?
Ouais.
C'est pas vrai?
Si, parce que j'ai essayé de le commander à mon libraire et il m'a dit, je ne peux plus le commander à l'éditeur. Donc vous en parlerez à votre éditeur.
Ouais, ça va pas du tout. Hein.
Ça va pas du tout. Donc le premier passage que je voudrais lire de Barbe Rose, c'est une phrase qui dit « L'écriture est un pansement que je pose sur ma bouche ». Et un peu plus loin, vous poursuivez en disant « L'écriture n'est pas un hobby, l'écriture n'est pas un pansement, l'écriture est une brebis entrée en moi ». Un monstre délicieux qui s'est écorché sous ma peau, un germe de mon père, un sperme de mon père qui a transpiré sous la peau. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que vous vous contredisez, mais un petit peu quand même. L'écriture est-elle ou n'est-elle pas un pansement? Qu'est-ce que l'écriture pour vous, Mathieu Simonet?
Alors, ce qui est amusant, c'est que de temps en temps, j'écris des phrases un peu en mode automatique et je les oublie. Et typiquement, l'écriture est un pansement que je pose sur ma bouche. Je crois que c'est ça, cette phrase. Je l'avais totalement oubliée. Et c'est un journaliste qui m'a sorti cette phrase il y a 3-4, enfin, au moment où le livre sortait. Et je l'avais totalement oubliée. Il me demandait, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire? Et je me rendais compte que je n'en savais rien.
Je la trouve magnifique, cette phrase. Donc, je veux bien que vous me répondiez à nouveau à cette question.
Et pour être tout à fait honnête, j'avais oublié cette phrase. Et deux, j'aime cette phrase. L'écriture est un pansement que je pose sur ma bouche. Je crois que sur le fait que lorsqu'on écrit, à la fois on se console, il y a quelque chose de très doux. Enfin, moi, je sais que quand j'écris, je me sens consolé, pas parce que je vais écrire sur quelque chose de difficile, mais c'est le simple geste mécanique de l'écriture qui met comme dans un état d'hypnose ou de méditation. Et c'est pour ça que je milite pour l'écriture pour tous. Parce que je pense que l'écriture, comme le sport, permet d'entrer dans un état méditatif. Donc l'écriture est un pansement, ça parle de cela. Et que je pose sur ma bouche, je crois toujours que quand on écrit, on se tait. C'est-à-dire que moi, mon père me disait qu'écrire, c'est comme regarder le soleil dans les yeux. Enfin, d'essayer de regarder le soleil, c'est impossible. Et je pense qu'écrire, c'est quelque chose bizarrement d'impossible. Enfin, ce qui est impossible, ce n'est pas d'écrire, mais d'écrire pour ne pas se taire. Je pense que dès qu'on écrit, on génère des malentendus et on n'arrive jamais à trouver le mot juste. Et pour moi, l'écriture est un pansement que je pose sur ma bouche. Ça veut dire tout ça, ça veut dire que l'écriture permet de consoler et en même temps, en écrivant, on continue de se taire.
Vous continuez de vous taire et vous cherchez le mot juste ?
Non, parce que justement, de temps en temps, je dis que je suis dans la maîtrise en tant qu'avocat et dans l'abandon en tant qu'écrivain. Et en tant qu'écrivain, je ne cherche jamais le mot juste. Je cherche à plonger dans un état et à me laisser aller. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'écriture automatique dans l'écriture et que les deux phrases que vous avez citées, ce sont typiquement des phrases écrites en écriture automatique, c'est-à-dire je ne savais pas et je ne sais toujours pas exactement ce que j'ai voulu dire, mais j'ai eu le sentiment, un peu comme quand on danse, il y a des moments où on ne sait pas exactement pourquoi on fait ce mouvement, mais on se sent bien, on se sent à sa place. Mais ça ne passe pas par l'intellect.
Et vous écrivez à la main ?
Alors j'écris beaucoup à la main, mais de moins en moins. C'est-à-dire j'écris de plus en plus avec mon petit ordinateur, mais je continue d'écrire à la main. Et je pense que je n'écris pas de la même manière lorsque j'écris à la main et lorsque j'écris sur un ordinateur.
Est-ce que vous parliez de ce geste qui plonge un peu dans un état méditatif ?
Et je pense que l'état méditatif, on le retrouve. Enfin, moi, je ne le retrouve pas avec un ordinateur. Enfin, un peu, si j'arrête pas de me contredire quand je parle d'écriture, un petit peu, mais encore plus à la main. Je trouve que... Déjà, il y a quelque chose de beaucoup plus confidentiel lorsqu'on écrit à la main, parce que moi, j'ai une écriture illisible. Et
moi aussi.
Voilà, j'étais justement en train de regarder votre écriture. Mais alors qu'il y a sur un ordinateur, par définition, il n'y a pas une écriture illisible. Ah, il faut juste que je fasse une signature.
Allez-y, allez-y.
Pardon.
Oui, c'est vrai, j'ai ouvert mon carnet de notes devant vous et du coup, vous avez une partie de ma psyché sous les yeux à travers ma calligraphie.
mais je me rends bien compte qu'au fur et à mesure des années, j'écris de moins en moins quand même à la main et ça me rend triste. Je ne sais pas pourquoi je n'écris pas plus à la main et je le fais plus pendant les vacances. Là, je sais que par exemple, en partant en vacances... puisque là on est en juillet, je vais écrire beaucoup à la main.
Comment est-ce que vous êtes venu à l'écriture ?
Alors c'est mon père, alors c'est un petit peu ce que je raconte dans
Rose. Les auditeurs n'ont pas le plaisir peut-être d'être déjà vos lecteurs.
Exactement. C'est mon père qui m'a... Mon père a toujours voulu écrire, mon père s'est toujours considéré comme un écrivain et mon père est le premier écrivain que j'ai rencontré.
Il a écrit d'ailleurs.
Il a écrit beaucoup de manuscrits, mais il ne les a jamais terminés. Et il n'a jamais été publié. Et donc, pour moi, le premier écrivain que j'ai rencontré, c'est mon père. Et j'ai toujours associé le fait d'être écrivain, non pas au fait de publier, mais au fait d'avoir un rapport au monde. Et mon père a toujours eu un rapport au monde totalement connecté à l'écriture. Et depuis toujours, mon père, quand j'étais enfant, m'a expliqué que j'étais un écrivain. Et j'ai toujours pensé qu'être écrivain, c'était quelque chose d'aussi simple que de savoir manger ou de savoir dormir. C'était à la portée de tous. Et j'ai mis très... Et donc, je suis devenu écrivain parce que mon père me disait que j'étais écrivain, sans vraiment me poser de questions, peut-être aussi pour lui ressembler, parce que je l'admirais. Et j'ai mis longtemps à comprendre, enfin, c'est peut-être à l'adolescence ou en étant étudiant, je me suis rendu compte que beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes veulent écrire, mais ne se sentent pas légitimes à écrire. Et moi, grâce à mon père, la question de la légitimité ne s'est jamais posée, puisque j'ai toujours su, toujours cru, on m'a toujours dit que j'étais écrivain. Et alors même que j'avais pas encore écrit, pas encore publié, Et donc, j'ai un peu suivi les traces de mon père. Et après, comme mon père a des problèmes psychiatriques, l'écriture, c'est pour moi le mode de communication qui me permet d'entrer en contact avec mon père et qui me permet d'entrer en contact avec le monde. Et pour moi, l'écriture, c'est le lien avec le monde. Et donc, ça m'a totalement structuré. Donc, pour moi, écrire, c'est pas tant. L'enjeu n'est pas tant de publier, même si c'est quelque chose que je trouve très agréable. Et avoir des lecteurs, c'est quelque chose de très agréable. Mais c'est d'abord, pour moi, l'écriture, c'est un lien, et notamment un lien avec ceux qui sont différents, ceux avec lesquels on n'arrive pas à communiquer.
Donc un rapport au monde plus qu'un rapport à la langue?
Ouais, c'est plus un rapport au monde. Et d'ailleurs, j'interviens dans un master de création littéraire, j'interviens auprès d'étudiants, de lycéens, de collégiens, et je leur dis, j'étais pas très bon en orthographe, je commets des fautes de grammaire, et j'aime mes fautes de grammaire, parce que les fautes de grammaire, c'est comme un accent, je pense, c'est un petit caillou dans la chaussure qui fait que les choses sont pas totalement carrées. Et alors, on peut se dire que c'est un rapport aussi à la langue, mais je pense que moi je suis plus dans un rapport au monde qu'un rapport
Donc moins
à
dans
la
la
langue.
poétique et plus dans...
Ouais. Alors après, je pense qu'il y a une forme de poésie à partir du moment où on arrive, quand on a ce rapport au monde, et lorsqu'on est dans le lâcher-prise, il y a une sonorité qui est en lien avec la langue. Et c'est pour ça que quand des gens se sentent légitimes à écrire, lorsqu'on pousse, y compris des personnes qui ne sont pas habituées à écrire, lorsqu'on les pousse à écrire, il se passe quelque chose au niveau de la langue. Là, récemment, je suis intervenu dans la maison d'arrêt de Nanterre. J'ai animé un atelier d'écriture pour 70 détenus. Ben, c'était incroyable. À partir du moment où les détenus acceptaient d'écrire, y compris des détenus qui n'avaient pas forcément fait d'études et qui avaient un rapport à l'écrit compliqué, il y avait un vrai rapport à la langue. Mais le rapport à la langue passe après le rapport au monde. Il faut d'abord être dans le lâcher-prise, arrêter de penser qu'on est jugé. Et souvent, on a un rapport à l'écrit qui est un rapport de jugement hiérarchique. Il y a ceux qui savent, ceux qui savent pas, ceux qui sont bons, ceux qui savent pas. Et en fait, c'est comme danser en boîte de nuit, tout le monde peut danser.
En tout cas, enfin, moi, à vous lire, c'est vrai que je sens beaucoup, on sent beaucoup votre travail automatique. Voilà, il y a pas de construction par chapitre. On sent que vous avancez de manière un peu bloc par bloc, que parfois il y a des idées un peu décousues. Enfin, c'est un rapport très direct avec l'écriture et ça se ressent beaucoup dans ce que vous faites.
Alors pour être tout à fait précis, j'ai mes premiers jets d'écriture où je suis beaucoup dans l'écriture automatique en partie. Il y a d'autres moments où je suis dans de l'écriture non automatique. Mais donc c'est un petit peu comme si j'étais un peintre et que j'essayais de mettre sur la table toutes mes couleurs. Et ça fait partie d'un temps d'écriture assez long. Et après, il y a le temps du montage ou du collage, où là, je vais vraiment découper dans mes textes, et physiquement, je vais vraiment découper dans mes textes, et je vais essayer d'assembler des paragraphes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et tout l'enjeu, c'est de surprendre le lecteur et en même temps de trouver une unité dans la lecture. Donc j'essaye, comme à mon avis un réalisateur qui réalisera un film, qui fera le montage d'un film, je joue sur le... Comment tenir par la main le lecteur pour qu'il aille de bloc en bloc et qu'il ne se sente pas perdu, mais en même temps, comment faire pour qu'il ne soit pas totalement sur un chemin linéaire? Et ça, je pense que c'est en lien avec mon rapport à mon père et à la psychiatrie et au fait que j'ai toujours associé l'écriture à une forme de folie. Et pour moi, l'enjeu de la lecture, c'est de sortir, d'entrer dans la folie, mais sans être perdu. Et je pense que dans mes livres, c'est ce que je recherche. J'essaye de perdre le lecteur, mais je ne veux pas qu'il soit trop perdu non plus. Pour qu'il puisse, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que le lecteur puisse s'interroger par rapport à sa propre vie. Par exemple, sur ce livre qui est sur mon père, ce qui m'intéresse, c'est quand les lecteurs me parlent de leur rapport à leur père. Et c'est ce que j'appelle la littérature augmentée. C'est tout ce que le lecteur apporte au livre que l'auteur n'a pas anticipé. Et pour moi, c'est extrêmement important qu'il y ait un espace de respiration dans le livre pour que le lecteur puisse plonger par rapport à sa propre histoire et puisse réinterroger sa propre histoire par rapport à son père, qu'il l'ait ou qu'il n'ait pas connu.
Oui, d'ailleurs, bah, ça me permet de rebondir tout de suite sur un autre passage que je voulais lire, qui est un peu plus long, mais que je trouve très beau, où vous dites « Mes livres sont ambigus, toute écriture est ambiguë, c'est sa force vis-à-vis des lecteurs anonymes et son talon d'Achille vis-à-vis de mes proches. Je n'en retire aucune fierté. » Si certains, en lisant mes livres, ont cru que mon père m'avait violée, ils se sont trompés. Ce n'est pas grave, le lecteur a tous les droits. C'est inacceptable, mon père est au bord des larmes. Si certains d'entre vous ont cru dans les blancs de mon écriture, c'est qu'elle a fonctionné. Elle a planté des graines sous votre peau que je ne contrôle pas. C'est la preuve que mon père est légitime pour faire entendre sa voix. Mon père n'est pas idiot, la honte diffuse qu'il ressent ne repose pas sur un fantasme. Elle a pour terreau les lecteurs qui ne savent pas lire, ceux qui ne cherchent pas à comprendre l'écho qu'un livre peut créer sur leur propre vie, ces lecteurs qui cherchent simplement à forcer la clé de la serrure, sans aucun recul, avec l'ego surdimensionné des Sherlock Holmes qu'ils ne seront jamais. Ces lecteurs qui jugent mon père, je leur crache dessus, je suis du côté de mon père, toujours, pas simplement parce que je suis son fils, mais aussi et surtout parce qu'il m'a transmis les clés de l'écriture, du rapport aux mots, ce rapport mystique, cet univers ésotérique dans lequel je me suis perdue avec délectation. Donc c'est vraiment ce que vous venez de dire, hein, ce rapport aux lecteurs et l'envie de les faire réagir. Et d'ailleurs, à la toute fin, vous donnez une adresse email et vous demandez... vous dites, vous pouvez écrire un texte sur votre père, il sera publié sur un blog.
Il y a plus de 200 personnes pour l'instant qui ont participé, et j'ai fait la même chose pour la mère. Et donc, mais effectivement, là, ça me touche, ce passage, parce que je pense que quand on écrit, on oublie ce qu'on a écrit, et c'est un peu comme des doudous retrouvés où tout à coup, et effectivement, le lien avec la littérature augmentée, qui est illustré par le passage que vous avez lu, et puis il y a le lien par rapport aux proches, ou par définition, pour un proche, je pense que c'est très 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 compliqué d'être le proche d'un auteur lorsqu'on se retrouve dans le livre, et ça a été particulièrement compliqué pour mon père, c'est sûr.
Oui, c'est ce que vous racontez dans Barberose, justement. Donc vous parlez des blancs dans votre écriture, est-ce que c'est des blancs intentionnels, ou est-ce que c'est des blancs...
Je pense que c'est des blancs intentionnels, parce que ce qui m'intéresse, je pense que c'est comme un photographe qui va à un moment donné décider de faire un gros plan sur un élément du décor, et les blancs, c'est tout ce qu'on ne voit pas, et la vérité, c'est l'ensemble, et donc le focus qu'on va faire sur un détail, ça ne correspond pas à la vérité. Parce qu'on simplifie par définition les choses, et on le simplifie pour des raisons esthétiques, parce qu'on va trouver que c'est beau ou que c'est émouvant, parce que ça permet aussi au lecteur de finalement mettre de sa propre vie tout autour. Donc oui, les blancs sont totalement intentionnels, et je me rends bien compte à un moment donné, quand je suis dans lâcher prise de l'écriture, j'arrive à voir comment un tel pourrait interpréter ce que je suis en train d'écrire, et je me rends bien compte là du malentendu, et je suis toujours dans une tension où d'un côté j'aimerais remettre un peu des béquilles en me disant j'aimerais ne pas trop blesser X, Y ou Z, et en même temps j'ai l'impression que dès que je colorie les blancs, j'enlève de l'écriture, et il y a tout un enjeu pour essayer de rester dans l'écriture et accepter de blesser, pas parce que j'ai envie de blesser, mais parce que je pense que l'écriture, avec ses blancs, blesse, pas parce que je blesse les gens, mais parce que les gens sont blessés...
Par leur propre projection.
Exactement, par leur propre projection. Et en même temps, je pense que c'est un chemin que chacun doit faire, et que mon père, par exemple, ce livre, c'est le seul... En tout, j'ai écrit 6 livres, et c'est le seul où j'ai été face à cette difficulté. C'est que mon père... m'a poussé à écrire, mais mon père m'a interdit d'écrire ce livre. Il m'avait dit « Attends ma mort ». Et j'ai quand même écrit ce livre, et j'étais persuadé, j'espérais presque que ce livre n'allait pas être publié, parce que j'avais peur que mon père se suicide après ce livre. Non pas, pourtant, je pense que ce livre est une déclaration d'amour à son égard, mais pour mes précédents livres, il est allé à l'hôpital psychiatrique, donc je me disais « Là, j'écris un livre sur lui ». Et j'avais très très peur, et je lui ai envoyé, ça a été mon premier lecteur, enfin je lui ai envoyé le premier exemplaire, je sais pas, un mois avant la sortie du livre, et il m'a envoyé un texto très beau où il me dit que ce livre rattrape tout ce que je lui ai fait dans le passé. Il le dit, c'est très joli ce qu'il dit, j'ai oublié l'expression, et il m'a envoyé ce texto en février 2016, et je n'ai jamais plus de nouvelles de mon père depuis. Depuis 3 ans et demi, j'ai plus aucune nouvelle. Mais je me raccroche à l'idée que son dernier texto était un texto très positif, où il était fier de ce livre, il était heureux. Et donc je garde, je, voilà, je garde cette idée que ce livre lui a fait du bien. Et il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont dit que pour eux, ce livre, c'est d'abord une déclaration d'amour à mon père.
Ah, moi, c'est ce que je lis aussi. Hein.
C'est d'abord, dans ce livre, c'est aussi une admiration que j'ai par rapport à l'écriture de mon père. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre des extraits de son livre.
Mon et de sa correspondance.
Et j'ai écrit d'ailleurs tout un article dans la revue Littérature et Droit, ou Droit et Littérature, qui s'appelle
L'avocat. Je vais vous interroger là-dessus après. Ouais. Mais cela dit, dites-moi sur.
Parce qu'en fait, ça m'intéressait de montrer en quoi j'étais peut-être un avocat hors la loi en écrivant ce livre, à la fois parce que je viole la vie privée de mon père, et tout auteur qui écrit sur ses proches viole la vie privée des autres, et deuxièmement parce que je publie des extraits de textes qu'il a écrits, qui sont protégés par le droit d'auteur, et je les fais sans son autorisation.
Et ça, c'est vraiment omniprésent, enfin, ça revient à plusieurs reprises dans votre livre, votre obsession pour la légalité de votre geste. C'est-à-dire que vous vous demandez, ai-je le droit de recopier les extraits d'un manuscrit de mon père sans son autorisation ? Faut-il prévoir une exception si mon père m'avait mandaté pour publier son livre ? Un mandat confié il y a 20 ans est-il encore valable ? Faut-il prévoir une exception si je suis personnage de son roman ? Le droit est-il un outil d'équilibre social ou une performance artistique ? Plus loin, vous vous présentez, vous interrogez. Je sais que la jurisprudence ne répond pas clairement à cette question. Ai-je le droit ou non d'écrire sur mon père sans son autorisation ? Encore plus loin, vous dites, mon écriture était une expropriation. Et enfin, ce livre était-il publiable à la toute fin ? Sur un plan littéraire, moral, juridique, je me sentais traversée de doutes. Donc c'est vraiment une obsession de cette question juridique de ce que vous êtes en train de faire. Et vous êtes avocat. À un moment dans le livre, vous dites que vous en êtes venu au droit et que vous êtes aussi passionné par le juridique, la réflexion juridique, la logique juridique. Ça a dû être ça doit être un combat permanent, non ?
Alors, c'est plus une passion qu'un combat, quelque part, parce qu'en tant qu'avocat, quand j'étais collaborateur, il y a assez longtemps, on m'avait mandaté. Je refais juste une petite signature, pardon. Pardon.
Non, pas de problème. Quand vous étiez jeune collaborateur, vous avez été mandaté.
Sur un dossier où un homme avait écrit un livre dans lequel il évoquait son ex-femme. Et donc, son ex-femme faisait un procès parce qu'elle ne voulait pas que le livre sorte. Et donc, c'était la première fois de ma vie où j'étais confronté sur cet enjeu juridique de la liberté de création d'un auteur versus le respect de la vie privée d'une personne dont on s'inspire. Et à ce moment-là, je m'étais dit, mais j'avais la sensation d'être face à une impasse, parce que je me disais, mais quand on écrit, je me souviens que je m'étais dit, mais si on raconte une scène d'enterrement, pendant cet enterrement, il peut y avoir des gens qui pleurent, ce qui est classique, mais en même temps, quelqu'un n'a pas envie qu'on dise qu'il a pleuré ou qu'elle a pleuré pendant un enterrement. Et je me disais, c'est terrible, parce que même sans révéler des secrets importants, dès qu'on parle de l'intimité, ça peut, par rapport à la pudeur de la personne, poser un problème, et c'est normal. Donc assez vite, je me suis beaucoup intéressé à cette contradiction, et j'ai été passionné lorsque j'ai vu que la Cour de cassation elle considérait que la liberté d'expression de l'écrivain, la liberté de création de l'écrivain, a autant de valeur que le respect de la vie privée d'une personne, et qu'il faut à chaque fois régler cela au cas par cas. Et on a la même chose par rapport au droit à l'image, par rapport à un photographe. Et donc, moi, c'est ce que j'appelle le droit imbricatif, c'est-à-dire je dis, il n'y a pas un gentil et un méchant, il y a deux victimes potentielles. Il y a le créateur, l'écrivain, qui ont dit, tu n'as pas tous les droits, et il y a la personne qui est personnage d'inspiration, à qui on dit, potentiellement, on va te violer ta vie privée. Et donc, en fait, il faut que les deux coexistent, il faut que l'écrivain et le personnage, entre guillemets, coexistent. Et il faut prendre en considération...
Il faut que les blessures des deux côtés coexistent.
Ouais. Et donc, moi, je suis beaucoup pour une évolution de... Enfin, pour une réflexion sur un plan juridique, qui prennent en compte ces deux blessures et qu'on ne se dise pas forcément il y en a un qui doit être privilégié par rapport à l'autre, ce qui est un peu la position de la jurisprudence aujourd'hui au cas par cas. On va essayer au cas par cas de voir quel est l'intérêt le plus légitime entre les deux protagonistes, entre l'écrivain et la personne dont l'écrivain s'est inspiré. Moi, je pense qu'il faut acter que les deux sont potentiellement victimes parce que on viole un peu la liberté de création de l'un, on viole le respect de la vie privée de l'autre, et que pour les deux, c'est insupportable et que c'est d'abord un enjeu symbolique. Et que je pense que le droit a une dimension symbolique importante et peut remonter tout le monde en disant « on vous a entendu, vous êtes victime, vous êtes d'abord victime toutes les deux ». Et maintenant, il faut trouver des solutions, c'est ce que j'appelle le droit imbricatif, pour essayer de faire en sorte que ce soit le moins douloureux pour les deux. Donc par exemple, je pense que quand dans une décision de justice, on indique à la personne qui revendique la violation de sa vie privée, qu'on entend et qu'on considère, qu'on entend sa douleur, le simple fait que ce soit écrit dans une décision, même s'il n'y a pas d'interdiction au final, même s'il n'y a pas de dommages à intérêts qui sont alloués, même s'il n'y a pas une interdiction de publication, je pense que pour la personne qui est personnage d'inspiration, ça lui fait déjà du bien parce qu'elle est entendue par la justice et symboliquement, c'est
reconnu,
important.
C'est reconnu et c'est acté.
Voilà.
Et
moi, je crois beaucoup, finalement, à l'aspect littéraire des décisions de justice dans ce cas très précis que j'appelle ce droit imbricatif. Et par exemple, il y avait Jean-Louis Fournier, où c'est un exemple que je trouve intéressant, où il a écrit un livre sur sa fille, et sa fille, à la fin du livre, il lui a accordé des pages blanches, et une carte blanche finalement, pour écrire ce qu'elle pensait du livre. Et elle a pu dire à quel point elle était blessée par ce livre, à quel point elle n'était pas d'accord. Et
un droit de réponse.
Une espèce de droit de réponse qui est littéraire, qui est intégré. Et moi, je trouve ça très intéressant, ces solutions un peu atypiques, où je pense que peut-être que sur les sites des éditeurs, on pourrait imaginer que les personnes puissent agir. Et c'est mon frère qui m'a donné la plus grande leçon par rapport à ça. Je ne sais pas si j'en parle dans Barbe Rose, j'en parle à un autre moment.
Je sais plus.
Mon frère, quand j'ai écrit mon premier livre, Les Carnets Blancs, j'ai voulu lui montrer avant publication les extraits qui le concernaient. Il m'a dit non, parce qu'il m'a dit, si jamais tu racontes ma vie privée, tu n'as pas le droit. Si jamais tu transformes ma vie privée, tu n'as pas le droit. Si jamais tu parles de moi et que tu te fais de l'argent grâce à moi, tu n'as pas le droit. Et si tu ne parles pas de moi et que tu me tues symboliquement, tu n'as pas le droit non plus. Donc dans tous les cas, ça va être violent pour moi. Que tu aies parlé de moi, ou que tu n'aies pas parlé de moi, que tu aies dit la vérité, ou que tu n'aies pas dit la vérité, ça va être violent. Et comme je ne suis pas un censeur, je préfère ne rien lire avant, et lorsque le livre sortira, je le lirai, et dans tous les cas, je serai mécontent, et je pourrai t'engueuler. Et je trouvais ça assez sain comme démarche.
Oui, c'est un rapport assez sain au conflit.
Voilà.
Et vous dites que, un peu avant, vous dites que votre père vous a écrit donc, ce texto... qui est un peu le dernier texto à date.
Ouais.
À un moment dans votre livre, vous parlez du fait que l'écriture est un moyen de faire le lien, de créer du lien avec vos proches et avec votre famille, et du dialogue, etc. etc. On est tout à fait là-dedans avec ce texto de votre père,
ouais.
Sachant que vous aviez des relations conflictuelles avant ce livre. Et pareil avec ce que vous êtes en train de dire par rapport à votre frère. Est-ce que, voilà, sans cette écriture, ce lien ne serait pas possible, n'existerait pas ?
Ce qui est certain, c'est que si j'avais pas eu ce lien d'écriture, j'aurais pas de lien avec mon père. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois plus mon père depuis en 10 ans. Je l'ai vu, je crois que je l'ai vu 2 fois à l'enterrement de ma mère il y a 10 ans, et il y a peut-être 5-6 ans, on s'est vu une demi-heure. Donc je l'ai vraiment, en 10 ans, je ne l'ai pas vu. Néanmoins, je me sens très proche de mon père. J'ai beaucoup d'affection pour mon père. J'ai beaucoup de tendresse pour mon père. Grâce à l'écriture, parce que je suis fier d'avoir lu d'avoir lu ces textes. Il n'y aurait pas l'écriture, je ne sais pas quel lien j'aurais vraiment avec mon père, parce qu'on n'a pas, il m'a pas, il m'a quasiment pas élevé. Et en fait, je suis très très fier de mon père. J'ai beaucoup d'affection pour mon père, mais tout ça passe par l'écriture. Et moi, je me rends compte que dès que les gens se sentent légitimes à écrire, ils se créent un lien que moi, je trouve extrêmement fort, mais peut-être qui me console par rapport à une histoire familiale, par rapport à mon père. Ça.
Je voulais vous demander, donc vous dites que vous êtes toujours senti légitime à être écrivain.
Mmh.
Et donc finalement, chez vous, ce n'est pas l'écrivain qui fait fraction chez l'avocat, c'est l'avocat qui fait fraction chez l'écrivain, si je comprends
bien.
Ouais,
c'est vrai que autant je me sentais légitime à me dire écrivain, y compris lorsque je ne publiais pas, parce que j'ai, J'ai écrit en tout 5 manuscrits qui n'ont pas été publiés, donc, et c'est le 6e qui a été accepté, puis après j'ai publié 6 livres en tout. Mais donc, je me sentais légitime à être écrivain sans publier. Par contre, je ne me sentais pas légitime à être avocat, parce que j'ai longtemps eu un complexe de classe sociale, puisque je vivais, en gros, ma mère vient d'un milieu bourgeois et mon père vient d'un milieu plus simple, et que j'étais élevé dans le 16e arrondissement avec des parents qui n'avaient pas d'argent, et donc je me sentais décalé. Et le point d'ancrage, c'est lorsque j'avais 7 ans, je vivais dans une cité HLM en province avec mes parents. Ma mère raconte que mon père essaie de l'étrangler. En pleine nuit, elle nous demande à mon frère et à moi de partir, enfin, en cachette. On monte à Paris, dans l'hôtel particulier de mes grands-parents maternels. Et pour moi, c'est un peu la fin de l'enfance, c'est la séparation avec mon père.
Passage dont vous parlez dans Barberousse. Ouais. J'ai l'impression que vous en avez parlé dans un autre
livre. J'en parle. Ouais, je crois que
c'est un peu votre élément fondateur.
C'est un peu l'élément fondateur. Et par rapport à cette scène-là, quand je vois ma grand-mère maternelle, j'essaie de lui faire un compliment et je lui dis « Vous avez un beau petit HLM », parce que j'étais persuadé que tous les petits immeubles, c'était des HLM. Et c'est là où je vois qu'elle me traite de plouc et que je suis... Et je pense que cette blessure de la fin de l'enfance et le fait d'être considéré comme un plouc en arrivant dans le 16e arrondissement à l'âge de 7 ans a fait que je ne me suis pas senti légitime socialement et que donc je fantasmais un peu le fait d'être intégré socialement et que je ne me sentais pas à ma place. Et je pense qu'aujourd'hui encore, je me sens toujours un peu plouc, quoi qu'il arrive. Et donc, pour moi, ça n'était pas du tout évident de devenir avocat. Et parce qu'en devenant avocat, quelque part, je devenais bourgeois. Et donc, je rattrapais un peu cette remarque de ma grand-mère. Et donc, oui, je pense que je suis rentré par effraction en tant qu'avocat et pas en tant qu'écrivain.
Comment est-ce que l'avocat et l'écrivain coexistent ? Alors, au tout début, vous dites à un moment, en devenant avocat, j'ai cessé d'écrire. Pas totalement, mais je n'arrivais plus à mettre l'écriture au centre de ma vie. Mon cerveau était encombré par les délais à respecter, les urgences à gérer. Je n'avais aucun recul, j'absorbais toutes les angoisses des clients. Comment est-ce que vous avez réussi à faire coexister Parce que chez vous, l'écrivain, ça prend vraiment beaucoup de place. On sent que c'est assez obsessionnel et que...
Alors c'est vrai que juste tant que j'étais étudiant, j'arrivais à écrire beaucoup et quand j'étais étudiant en droit notamment, parce qu'on travaille beaucoup quand on est étudiant, je m'étais dit, si jamais on me proposait en tant qu'étudiant en droit de travailler bénévolement pour un ministre pendant 15 heures par semaine, tout le monde me dirait, c'est génial pour ta carrière d'avocat, parce que ça te permettra d'avoir un réseau. Donc je me disais, bloquer 15 heures par semaine, c'est positif pour devenir avocat. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu besoin de me raccrocher à cette histoire en me disant « donc je peux mettre 15 heures d'écriture ». En fait, j'avais besoin d'avoir la certitude que ce que je faisais était relativement sérieux parce que je voulais devenir avocat. Et comment écrire quand on veut devenir avocat et qu'on nous dit qu'il faut travailler beaucoup, 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 j'ai eu besoin de me raconter cette histoire qu'il fallait que je bloque 15 heures par semaine et que si on me demandait de bloquer 15 heures par semaine juste pour avoir un réseau relationnel et travailler 15 heures par semaine pour un ministre gratuitement, tout le monde dirait c'est très bien. Donc je me suis dit, c'est sérieux de bloquer 15 heures
pour
l'écriture.
C'est une substitution de motif.
Ouais, vraiment. Et en plus, cette histoire-là, je me rends bien compte qu'elle n'est pas très compréhensible, que tout le monde, c'est un peu tordu, mais ça m'a beaucoup aidé. Et moi, je pense que quand on veut écrire, un des enjeux numéro un, c'est de trouver du temps et que souvent, on attend d'avoir du temps pour écrire. Et moi, je dis qu'il faut écrire dans le temps dont on dispose et pas attendre d'avoir du temps pour écrire, sinon on n'écrit jamais. Et donc, je pense qu'on a tous des béquilles ou des petits trucs pour trouver du temps d'écriture. Et ensuite, écrire, ce n'est pas tant que du temps, c'est aussi un état d'esprit, une disposition, voir le monde, c'est toujours ce rapport au monde. Et en devenant avocat, c'est vrai que j'ai été absorbé par la passion du métier d'avocat et par le stress du métier d'avocat et j'avais plus de place pour l'écriture. C'est vrai que ça a été pour moi un moment hyper dur.
Ça a duré combien de temps ?
2 ans à peu près. En 2 ans, j'ai un tout petit peu écrit, mais j'arrivais plus. C'était un peu automatique. L'écriture n'était plus prioritaire. Et donc, très concrètement, j'ai, au bout de 2 ans, mis de l'argent de côté. Et je suis parti vivre à Londres avec de l'argent de côté. Et j'ai vécu, je pouvais vivre simplement à Londres pendant 8-9 mois. Et là, je me suis dit, je vais écrire pendant 8-9 mois. Et là, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé face à la page blanche et je me rendais compte que j'avais trop de temps Et c'est là où j'ai compris que pour moi, c'est pas forcément pour les autres, mais pour moi, j'ai besoin que le temps soit rare pour écrire. Il faut pas qu'il le soit trop, mais il faut qu'il le soit un peu. J'ai besoin de me battre pour avoir du temps. Et puis ensuite, grâce à cela, je suis rentré dans un cabinet en tant que collaborateur dans le cabinet Racine. Je leur ai expliqué, j'étais très cash avec eux, je leur ai expliqué la situation, que je publiais pas, mais que l'écriture c'était important pour moi, que j'avais besoin de pouvoir descendre dans un café de temps en temps, une heure pour écrire.
Et alors ?
Ils ont accepté. Mais ils ont accepté, je pense qu'il y avait un rapport de confiance que j'avais avec les associés de Racine, mais en contrepartie, je pense que j'étais très sérieux, je restais le temps qu'il fallait, mais je voulais pas écrire en cachette. Et je sentais que moi, mon mode d'écriture idéal, c'est dans la journée
de partir. Un moment d'une fulgurance, de pouvoir descendre et de l'écrire, cette fulgurance.
Et qu'en une heure, il se passe, il n'y a jamais... ça ne pose pas de problème. J'avais mon portable s'il y avait un vrai problème. Et en fait, ça, c'était super. Enfin, ils ont été super avec moi. Et je pense que j'ai été super avec eux. C'est-à-dire qu'on était dans un écosystème. Et aujourd'hui encore, les associés... C'est Bruno Cavalier et Valérie Ledoux. Et Valérie Ledoux, qui était l'associée avec laquelle je travaillais le plus directement, on est toujours en lien. Elle m'a encore envoyé un message il y a une semaine. Grâce à eux, je pense que j'ai réussi à trouver l'écosystème entre avocat et écrivain dans ce cabinet. Puis après, je me suis mis à mon compte en 2003. Et là, mon idée, c'était de me dire, il ne faut pas que j'augmente mes revenus. C'est-à-dire qu'il faut que j'augmente mon temps libre, mon temps d'écriture. Et donc, à partir de 2003, je me suis dit que c'est extrêmement important de ne pas rentrer dans la spirale de la plupart des avocats qui veulent au fur et à mesure gagner de plus en plus d'argent et qui ont de moins en moins de temps. Et donc, je me suis obligé, à partir de 2003, à avoir à peu près les mêmes revenus. Et aujourd'hui encore, ça a un peu évolué, bien sûr, mais pas de manière... j'ai à peu près le même mode de vie que j'avais en 2003. Je prends le même appartement qu'en 2003, j'ai un peu le même mode de vie. Et donc ça, l'aspect financier, je pense, c'est extrêmement important quand on veut cumuler écriture avocat.
En tout cas, vous avez vraiment réfléchi l'aspect temps, argent, répartition de ces deux activités avec pour ligne directrice qu'il fallait que le temps de l'écriture ne soit pas que du temps de l'écriture, mais qu'il fallait qu'il y ait du temps d'écriture. Ouais. Moi, je trouve cette histoire formidable de dire il faut que je puisse descendre une heure pour écrire pendant la journée en tant que collaborateur. Enfin, c'est assez dingue. Et ensuite, vous évoquez à plusieurs reprises des retraites que vous faites. Alors, vous aviez présenté un dossier à la Villa Médicis. Vous n'avez pas été pris, mais vous avez quand même... Vous avez intégré...
C'est un dispositif...
Du Conseil régional d'Île-de-France, c'est ça ? Et ça, c'est quand même des choses qui prennent du temps, non ? Enfin, c'est des résidences...
Alors c'est sûr que le Conseil régional d'Île-de-France propose à des auteurs... d'être en résidence dans des lieux, mais l'objectif c'est qu'on dort pas dans le lieu, mais on interagit de manière littéraire artistique avec ce lieu.
D'accord.
Et donc moi concrètement, j'ai fait un projet avec les hôpitaux de Paris, notamment pour travailler sur l'impact de l'écriture sur le bien-être. Et donc j'avais demandé à 1000 patients de 37 hôpitaux d'écrire leur adolescence sur des carnets, qui étaient ensuite envoyés à des collégiens lycéens. Avec une psychiatre, on analysait l'impact de l'écriture sur le bien-être et j'ai été aidé par 200 salariés de la PHP qui bénévolement m'ont aidé. J'ai pu citer un chef d'orchestre. J'ai joué le rôle de chef d'orchestre. Et c'est vrai que c'était en 2013-2014 et pour la première fois de ma vie, j'avais parce qu'on a une bourse de 20 000 euros en droit d'auteur. Donc c'est une bourse qui est très importante. Et donc, pour la première fois, j'ai pu changer un peu de logique. Ma logique jusqu'ici, c'était je gagne de l'argent en tant qu'avocat et je gagne pas d'argent en tant qu'écrivain. Et à partir du moment où j'ai fait cette résidence, j'ai commencé à intégrer l'idée que je pouvais gagner de l'argent en tant qu'auteur via notamment les résidences.
Et donc, vous étiez pas seulement légitime à écrire, mais que vous étiez légitime à gagner, entre guillemets, votre vie à travers l'écriture.
Et aujourd'hui, moi, je me rends bien compte sur ma dimension artistique, les deux piliers qui m'intéressent, c'est l'écriture pure, écrire, et mettre en place ce que j'appelle des dispositifs d'autobiographie collective, qui sont comme des espèces de performances, de dispositifs où je pousse tout le monde à écrire. Et pour moi, donc j'ai par exemple organisé des échanges de secrets entre deux lycées situés à 500 km l'un d'autre. J'ai proposé à 300 habitants de Clichy-sous-Bois d'écrire une carte postale avec une histoire personnelle et de l'envoyer dans 5 pays. Il y avait 5 boîtes aux lettres et ils pouvaient choisir 5 pays. Et c'était envoyé à des inconnus qui leur répondaient. Là, récemment, je suis intervenu auprès de 300 lycéens. 100 dans le 16e, 100 en banlieue, 100 à la campagne. Je leur ai tous demandé d'écrire pourquoi ils avaient honte. En fait, j'aime mettre en place des dispositifs d'écriture collaborative et intime. Et pour moi, c'est vraiment le deuxième pilier de ma casquette d'écrivain. Mais c'est une casquette où je n'écris pas, finalement. Et en plus, cette casquette-là m'a généré effectivement de l'argent. Ce qui pose aujourd'hui un problème... Parce qu'en fait, c'est comme si c'était une nouvelle activité qui me passionne. Mais aujourd'hui, je suis à un moment où je sens que je n'arrive plus à écrire. Je suis de nouveau un peu comme quand je suis devenu jeune avocat.
Vous étiez à Londres.
Ouais, exactement.
Finalement, vous êtes trop libre d'écrire.
Ouais. Et là, il y a une revue qui s'appelle Décapage, je crois, qui m'a demandé d'écrire là-dessus. Et j'ai envoyé un texte, donc ça va sortir bientôt, sur le fait que de nouveau, je n'ai plus de temps d'écrire. Je n'arrive plus à trouver du temps pour écrire. Il faut que je revole du temps. Et donc là, hier soir, j'étais dans un train. J'ai pris un train à 22h. J'arrivais à 1h du matin à Paris. Et je me suis dit, faut que je revole du temps. Et donc, j'ai réécrit hier dans le train. Et j'avais de nouveau du plaisir. Et mon objectif là, c'est de revoler du temps tous les jours, quoi qu'il arrive.
Et du coup, votre activité d'avocat, parce qu'en plus, vous avez pris la présidence de la Société des gens de lettres là, à l'instant. Mmh. Alors, c'est pas du tout, enfin, ce podcast n'est pas un podcast d'actualité, mais le fait est que je suis dans l'actualité, donc tant mieux. Donc, c'est encore une pierre de plus. Alors, vous me disiez en off, avant qu'on commence, je vous demandais, est-ce que vous étiez encore avocat ? Vous me disiez que vous aviez interrogé l'ordre sur la possibilité de rester au barreau, etc. etc. Comment ça s'articule tout ça ?
Alors déjà, moi j'ai 3 associés en tant qu'avocat, donc avant d'envisager de devenir président de la Société des gens de lettres, j'en avais parlé à mes associés qui m'ont donné leur accord, et en fait on s'est mis d'accord pour que, avec l'idée que j'allais réduire mon temps de d'avocat, donc aujourd'hui le temps que je consacre au métier d'avocat est réduit, et là depuis 15 jours, je suis président de la Société des gens de lettres depuis 15 jours, je me rends compte que c'est très 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 compliqué, c'est passionnant, mais très compliqué en termes d'emploi du temps.
Et de la même manière que vous avez besoin de voler du temps pour écrire, est-ce que c'est bénéfique à l'avocat de devoir voler du temps pour être avocat ?
En tant qu'avocat, non, je pense que si j'avais plus de temps en tant qu'avocat, ce serait mieux. Et donc, la seule solution, c'est de réduire le nombre de dossiers.
D'accord.
C'est vraiment de réduire le nombre de dossiers. Donc, c'est en fait, depuis 6-8 mois, je prépare...
Vous en avez parlé à vos clients ?
Est-ce que j'en ai parlé à mes clients ? C'est une bonne question. Pas tant que ça, je crois. Par contre, Si. En fait, il se trouve que maintenant, quand j'ai des nouveaux dossiers depuis 6 mois... je leur indique que c'est une de mes associées, Juliette Lefebvre, qui reprend les dossiers, parce que j'explique que moi j'ai pas le temps et que j'ai quasiment plus le temps et que je suis là, donc je suis là en soutien, mais je suis pas là au quotidien. Et donc très concrètement, pour l'instant, je garde que des dossiers que j'ai depuis longtemps, mais je prends plus de nouveaux dossiers, voilà. En gros, je ne prends plus de nouveaux dossiers.
Et donc, alors, vos nouveaux clients éventuellement connaissent votre activité d'écrivain. Les clients dont vous vous occupez, ils connaissent votre activité d'écrivain ?
Alors oui, ils le savent notamment par les réseaux sociaux.
Mais... Et alors, ça vous fait quoi, ça ? Parce que vous vous livrez sans filtre vos livres. Et puis, pour le coup, on a parlé de ces zones blanches, qui est ce que le lecteur projette. Et bien évidemment que... C'est jamais la vérité, n'existe pas vraiment, mais quand même, vous vous livrez sur votre intimité et vous prétendez pas à la fiction dans vos romans. Mmh. D'ailleurs, c'est intéressant que ce soit quand même roman. Mmh. Ça vous intimide pas, ça ? Le fait que potentiellement vos clients que vous allez défendre, je sais pas, il y a quand même une certaine prestance, une distance à avoir, et potentiellement ils peuvent lire vos écrits et cette intimité très profonde.
C'est une question que je me suis posée surtout pour le premier livre qui a été publié, donc il y a 10 ans, Les Carnets Blancs.
que j'aurais beaucoup aimé lire. Je me répète, peut-être qu'il y a un exemplaire quelque part.
Malheureusement, là, en plus, autant mon bureau d'avocat, je l'ai lu, mais là, j'ai rien, j'ai aucun livre avec moi. Mais à cette époque-là, j'avais lu un article sur une médecin, une femme médecin, qui avait écrit un livre. Et dans ce livre, il y avait une scène de scatologie. Et elle avait été sanctionnée par le Conseil de l'Ordre des médecins, disant que c'était choquant pour des patients que leur médecin puisse raconter une scène extrêmement intime. Et je m'étais dit, mais est-ce que le Conseil de l'Ordre pourrait me sanctionner parce que j'écris des choses effectivement assez intimes dans mes livres, même s'il n'y a pas de rapport à la scatologie, il y a des choses intimes dans mon... Et donc, c'est une question que je m'étais posée, et je me souviens que j'avais envoyé mon livre au bâtonnier, parce que c'est l'usage d'envoyer son livre au bâtonnier. Et j'ai jamais eu de... Alors après, je pense que finalement... En tout cas, il y a déjà eu des membres du Conseil de l'Ordre qui ont lu mes livres, et ça a toujours été plutôt positif. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Alors, je me rends compte que moi, dans l'idéal, je préfère être lu par des gens que je ne connais pas, parce que je trouve que les gens qui ne me connaissent pas, bah, par définition, ils ont un rapport à la lecture qui est différent. Et les gens qui me connaissent, c'est pas très agréable, et par rapport à des clients, c'est pas forcément très agréable. Et ça m'arrive que des clients me disent « Ah, j'ai lu votre livre et j'ai beaucoup aimé. » Et ça me fait toujours un tout petit peu bizarre, et je trouve ça pas très agréable, pour être tout à fait honnête. Non, après, j'ai beaucoup de clients qui ne m'ont jamais lu. Ils savent que je suis écrivain, mais ils ne m'ont pas lu.
Parce qu'il y a vraiment ce côté... Enfin, moi, pour Fleur d'avocat, je me suis fait interviewer pour que les auditeurs me connaissent, parce que j'ai eu des questions dans ce sens-là. Et il y a des personnes que j'ai rencontrées, et on discute, et puis je dis un truc, elle dit « Oui, je sais, tu l'as dit. » Et c'est extrêmement perturbant d'être avec des personnes qui nous ont écoutés, parler, dans votre cas, lu de choses très intimes. Et il y a ce côté un peu... Donc par rapport à des clients, à la limite, quand c'est des amis, bon, c'est un peu intimidant. Mais quand c'est des clients, en plus, je me doute que doit y avoir quelque chose d'assez...
Mais j'ai eu un seul souci un jour dans ma vie, il y a très 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 longtemps. C'était pour une affaire de divorce. Et c'est une cliente qui divorçait de son mari, et il se trouve que son mari, visiblement, était soit homosexuel, soit bisexuel. Et comme dans mes livres, on comprend que je suis homosexuel, j'ai senti que le fait de lire que j'étais homosexuel, alors c'était quelque chose qui était compliqué dans sa vie personnelle, elle a changé d'avocat. C'est la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé. Mais bon, je pouvais le comprendre, hein. C'est la seule fois où j'ai vu que la lecture de mon livre avait eu un impact direct sur un client.
Donc, c'est plutôt encourageant finalement pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient se...
Moi, je pense après que beaucoup de clients sont en demande d'avoir des avocats avec lesquels ils peuvent avoir un rapport de confiance. Et je pense que la confiance, elle naît à partir du moment où on arrête de jouer un rôle et où on montre aussi notre intimité, nos faiblesses. Tout ça, c'est une histoire ensuite de dosage. Mais je crois beaucoup qu'on est aujourd'hui dans un monde où on a envie d'être connecté, d'avoir confiance, de se sentir... Et on ne recherche pas forcément des super-héros, des avocats ou des médecins ou des hommes politiques super-héros qui n'ont pas de failles, qui n'ont pas de complexité, qui n'ont pas... Donc moi, je pense que c'est important pour les avocats d'être... De laisser transparaître une part de leur intimité, de leur sincérité. Et aujourd'hui, d'ailleurs, avec les réseaux sociaux, c'est devenu la norme.
D'ailleurs, par les réseaux sociaux, j'ai appris qu'on était nés le même jour, à quelques dizaines d'années d'écart.
C'est vrai, vous êtes nés le 27 mai ?
Exactement.
Ah, ça fait plaisir. C'est drôle parce que ce soir, je vois une journaliste de France Culture qui est née, elle, le 27 mai 72, exactement le même jour que moi.
Et c'est quelle journaliste de France
Caroline Brouet.
D'accord. Si vous m'aviez dit Marie Richaud, je me serais incrustée parce que c'est une de mes idoles. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup. Non, je vais quand même vous poser trois petites questions que je pose habituellement à mes invités, qui est, quelle est votre dernière joie ?
Ma dernière joie ?
Oui, votre dernière joie.
Le week-end dernier, j'ai fêté avec mon mari les 20 ans de mariage, non pas de mon mariage, mais de sa cousine, et c'était un moment familial extrêmement joyeux et émouvant pour plein de raisons, et donc c'était ma dernière joie.
Votre source, est-ce que vous avez une source d'inspiration actuellement?
Alors, j'ai un sujet, je ne sais pas si c'est une source d'inspiration, mais en ce moment, je travaille sur un résistant aveugle qui s'appelait Arthur Poitevin, qui était violoniste, et c'est un peu ma passion en ce moment. Je suis dans la passion Arthur Poitevin, parce que même si j'explique que je n'écris plus, ce n'est pas totalement vrai, parce qu'il y a quelques jours, j'étais à Clermont-Ferrand pour aller sur les traces d'Arthur Poitevin.
D'accord. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe?
Ce que je porte sous ma robe. Souvent, je suis en jean et en chemise, et je me pose toujours la question, est-ce que ça va se voir que c'est un jean, et que c'est une chemise, et que c'est pas une veste?
Merci beaucoup, Mathieu Simonet, pour cet
Ben,
échange.
merci beaucoup pour votre lecture et pour ce temps.